Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du Bélier, des deux nouvelles lunes en Bélier. Et oui, rien de moins, deux nouvelles lunes en Bélier dans la même saison. La première, le 21 mars, et la seconde, le 20 avril, qui sera aussi une éclipse. Alors, une nouvelle lune éclipse. Attachez votre sucre, la saison des éclipses approche à grands pas. Nous parlerons aussi de la pleine lune du 6 et des transits importants du mois, évidemment, de la fête païenne de Stara, c'est-à-dire l'équinoxe du printemps, et d'un méga game changer en mars, l'arrivée de Pluton en Verseau. Pour la petite histoire, je vous reviens sur ma première année de podcast que j'avais lancée à même date l'année dernière. Alors, la saison du Bélier qui commence cette année le 20 mars au 20 avril, nous sommes dans une modalité cardinale et dans l'élément de feu. Rappel des signes cardinaux, ce sont eux qui commencent les saisons. On parle du Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Ce sont des signes qui adorent prendre le lead, passer à l'action, entreprendre, démarrer quelque chose. C'est des gens qui ont beaucoup de drive. C'est des gens qui ont plein d'idées, qui sont engagés dans leur passion. Très bon à commencer des projets, peut-être moins à les finir. C'est vraiment cette énergie, cette pulsion-là de nouveau départ qui est avec eux. Alors, lancer des projets, créer des concepts, motiver des troupes, ça, c'est vraiment leur grande force. Évidemment, chacun le fait avec la couleur de son élément. Le Cancer, évidemment, signe d'eau gouverné par la Lune, représenté par le crabe, une carapace solide qui protège un intérieur tendre. Mot-clé, feelings, les émotions, le besoin de défendre, de protéger, de prendre soin des autres. On va parler plus du côté des ressources humaines, la partie humaine d'un projet. C'est très tenace, un Cancer. Faut surtout pas les sous-estimer parce qu'on les dit immo ou quoi que ce soit. C'est très tenace. Faut leur donner une mission, je vous garantis qu'ils vont y aller jusqu'au bout, là. Ils ont la carapace solide. Si on regarde la balance, signe d'air gouverné par Vénus, représentée par la balance de la justice, la diplomatie, ou même la balance d'Anubis, le dieu égyptien, qui devait peser le cœur des défunts pour dicter leur destin dans l'autre monde. C'est du sérieux, hein? Même chose, hein, les balances, il ne faut pas penser, parce que c'est un signe d'air gouverné par Vénus, qui sont toujours la tête dans les nuages, ils ont une profondeur. Alors, c'est la quête d'harmonie qui vise l'équilibre des forces en jeu, mais aussi à donner une chance à toutes les idées d'être entendues. C'est aussi la capacité de lier les gens ensemble, de créer des environnements qui sont invitants. Le Capricorne, signe de terre, gouverné par Saturne, déjà sérieux quand ils sont enfants, bien souvent. Ne vous laissez pas impressionner par leur allure réservée ou leur allure de dur à cuire. Une fois qu'ils apprennent à laisser tomber leur garde, ce sont des petits agneaux et sont très sensuels en plus, vous allez découvrir ça. Et pour connaître un peu plus leur côté givré, ben faut attendre la fin de la journée du travail, le 5 à 7, et voilà, vous allez voir un autre côté du Capricorne. Sinon, ben c'est vraiment des gens avec une forte éthique de travail, de vraies machines, ça c'est certain. Et le Bélier, le signe qui nous préoccupe aujourd'hui, signe de feu gouverné par Mars, celui qui commence la roue du zodiaque, le plus primé des quatre, on pourrait dire des quatre cardinaux. C'est le pionnier, l'aventurier, celui qui n'a pas peur de foncer, tête et corne première, direct, rapide, pas de temps à perdre. Mais le Bélier, on va y aller un petit peu plus en profondeur, un peu plus loin. On va commencer par regarder la planète Mars qui le gouverne. Mars, nous l'avons vu dans la saison du Scorpion à l'automne dernier parce que Mars gouverne à la fois le Scorpion et le Bélier. Mais c'est entendu que Mars en signe de feu, comme dans le cas du Bélier, ce n'est pas du tout la même chose, la même expression que Mars dans un signe d'eau comme le Scorpion. Alors, on va voir un peu plus la différence un peu plus loin. Mais on va commencer par regarder, mais qui est Mars? C'est la dernière des planètes personnelles ou rapides. Il agit comme leader et protecteur parce qu'il fait le lien entre les planètes personnelles, c'est-à-dire Mercure, Vénus, les luminaires, la Lune et le Soleil aussi, et le reste de notre système solaire. Il est comme entre les planètes rapides, la Terre et après ça, là, les gros morceaux, les Jupiter, Saturne et tout. De façon générale, il nous parle de pulsion, de passion, d'action, d'ambition. C'est l'énergie de vie, c'est la drive, même la sex drive, mais c'est aussi tous nos systèmes de défense, d'attaque, de colère, d'agressivité. C'est aussi tout notre côté compétitif aussi. Et là, c'est intéressant de voir la différence entre Mars en domicile dans le Bélier et en domicile en Scorpion. En Scorpion, on est plus dans l'instinct de survie. C'est plus intérieur. Quand on parle de l'élément de l'eau, c'est plus associé au féminin, au yin, à la capacité de recevoir. C'est associé à la nuit, alors plus associé aux forces psychiques. Tandis que chez le Bélier, c'est une énergie plus yang ou masculine, de jour, plus extravertie, c'est une force de propulsion. C'est le désir de se définir, de trouver sa place dans le monde et son indépendance surtout, qui est vraiment une signature importante du Bélier, l'effet d'indépendance. Indépendance et de suivre ses passions. C'est très intéressant aussi parce qu'on peut très bien voir la différence dans le tarot entre le 2 de bâton qui représente Mars en Bélier. Si vous pouvez même sortir votre tarot, allez voir. Donc, le 2 de bâton qui représente Mars en Bélier et le 5 de coupe qui représente Mars en Scorpion. Sur le 2 de bâton, on peut voir un homme qui tient un globe dans sa main et qui regarde au loin. C'est comme si pour lui, tout est possible. Il est prêt à quitter qu'est-ce qu'il connaît pour une nouvelle aventure. T'sais, on sent qu'il est attiré. Il a peut-être déjà tout qu'est-ce qu'il lui faut, mais non, il y a quelque chose qui l'attire plus loin. Sur le 5 de coupe, le personnage est de dos, la tête penchée vers le sol, contemplatif, mélancolique. Sa quête est interne. Cette carte-là nous parle de courage intérieur face aux coups durs de la vie, de l'apprentissage du détachement. On voit bien ici la différence d'expression de Mars en signe d'eau et de feu. Alors, une énergie qui est plus à l'extérieur, une énergie qui est plus à l'intérieur. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a une quête. Il y a une quête. C'est Mars, on s'en va à la guerre ou on s'en va quelque part, on s'en va sauver quelqu'un. Mais on s'en va faire quelque chose, il y a une quête. Si on regarde Mars en mythologie, Mars, dieu de la guerre, est le fils de Jupiter, et oui, et de Juno. On a vu ça dans les épisodes précédents. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner voir ces épisodes. Donc, Mars, dieu de la guerre, a donné son nom à la planète Mars car elle nous apparaît dans le ciel rouge sang, comme la guerre, comme le sang. Donc, Mars est un dieu fougueux, jeune, c'est un grand stratège. Il représente vraiment la jeunesse, le combat, à la différence de Saturne et Jupiter qui représentent plus un âge mûr, plus 40 ans et plus, on va dire. Mais Mars, c'est cette énergie indomptée qui nous habite. Le mot Mars dérive de Maris, qui était un dieu étrusque de l'agriculture. Alors, on parle même avant l'Antiquité et la Rome antique et tout ça. Donc, Mars est aussi associé à l'agriculture, la fertilité, la végétation. Comme on disait, c'est une énergie yang, c'est une énergie de propulsion et de propagation. Le mois de Mars a été nommé en son honneur par les Romains. Et 2000 ans plus tard, c'est toujours le cas. On a toujours un mois qui s'appelle Mars. Et à l'époque, l'année commençait en mars. Elle ne commençait pas en janvier, elle commençait en mars. Elle était alignée justement avec la roue du zodiaque. Mais plus tard, ça a changé. Alors, janvier, mois d'élection des magistrats gouvernés par Saturne, le mois de janvier, le gardien du temps, a été plus tard convenu comme commencement de la nouvelle année. Donc, Mars a perdu sa place comme premier mois de l'année dans notre calendrier grégorien. Mais pour nous, les astrologues, c'est le début de l'année zodiacale, c'est le début des cycles nouveaux. C'est drôle parce que moi, justement, le reset, je le sens vraiment au printemps, là. L'année devrait commencer au printemps, mais ça, c'est personnel à moi, là, mais il y a quelque chose vraiment avec le soleil qui arrive à 0 degré de l'écliptique et que là, tout est en équilibre avec la Terre, avec le soleil pendant un moment. Mais non, c'est pas ça. Alors voilà, le premier mois de l'année est maintenant le mois de janvier. Mais vu que je suis astrologue, moi, dans ma tête, ça reste le mois de mars. Si on regarde le mot mars, en fait, ça signifie mort brutale ou violente. Hein? Alors, on sent tout le côté très combatif et guerrier associé à Mars. Son animal sacré est le lynx, le chien et l'oiseau. On va souvent le voir justement avec le casque, la lance et le bouclier. Ça, c'est vraiment des attributs de Mars. Où est votre Mars? Pour qui ou pourquoi Allez-vous vous battre? Si on est avec un Mars dans un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est sûr que je me bats pour mes passions, je me bats pour mon sens de la vérité, je me bats pour prendre ma place. Il y a vraiment comme un combat qui est très personnalisé ou un combat qui est vraiment plus enflammé, plus instinctif aussi. Si on est dans un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, alors là, mon Mars, il va se battre pour la sécurité, il va se battre pour que les choses soient bien faites, il va se battre pour avancer pour ses ambitions, il va se battre pour d'autres raisons qui sont un petit peu plus terre à terre, notre place dans le monde, mais comment je peux tirer mon épingle du jeu en ce bas monde quelque part. Dans un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, alors là, Mars, il va se battre avec des mots. Il va se battre avec des idées, pour des causes. Il va se battre vraiment pour la connexion entre les gens. Il va se battre vraiment, il va avoir un aspect plus relationnel. Il ne veut pas de communication aussi, ça va être très, très fort. Si on regarde dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, comme on disait, il est chez lui en Scorpion. Alors là, c'est la force vraiment interne, comme on disait, la force un peu plus psychique et psychologique à la limite. Mais en Cancer, on dit qu'il est en chute. Alors, c'est pas son endroit préféré. En Poisson, ben, c'est ça, là, il faut qu'il rame un petit peu plus, là. Ça va faire un Mars qui va apprendre à travailler plus avec son intuition pour vraiment s'adapter à son environnement. Alors, ça va être un Mars vraiment différent. Des fois, ça va être complètement dans le non-dit. Ça va être vraiment dans le ressenti. Alors, je vais aller me battre pour protéger. Je vais aller me battre pour défendre. On est peut-être moins dans l'attaque. On est peut-être plus dans la défense quand on est dans les signes d'eau avec un Mars. Si on regarde le Bélier lui-même, associé à la maison 1 en astrologie moderne, et on dit ça, mais il faut faire attention hein, parce qu'il faut comprendre que c'est pas vrai qu'automatiquement les maisons et les signes, c'est la même chose. Il faut comprendre que c'est deux systèmes qui ont été superposés, mais que cette superposition-là, elle est quand même moderne, découle de l'astrologie moderne, mais si on retourne dans des systèmes plus anciens, on peut voir que le système de maison n'est pas associé à des signes, juste important de le dire. Mais revenons à nos béliers. Si vous êtes bélier ou avez une signature de bélier ou même connaissez des béliers, vous êtes à même de reconnaître leur forte énergie, leur vitalité, leur magnétisme, leur ambition, le désir de partir à l'aventure, d'être premier, leur indépendance aussi, on le disait tout à l'heure. Mais des fois, c'est leur besoin d'indépendance. C'est pas vrai qu'ils sont tous nés nécessairement pour aller à la guerre, là. On vient de voir Mars, on comprend que c'est associé, mais des fois, ils sont venus développer ça. Ils sont venus développer leur indépendance. Ils sont venus développer leur courage, le courage de devenir pleinement eux-mêmes, d'apprendre à se faire confiance. Et souvent, ça va passer en s'éloignant le plus possible du nid qu'ils ont vu grandir. Il y a comme quelque chose d'un détachement, des fois, qui est nécessaire pour qu'ils aillent se trouver qui ils sont eux-mêmes. Puis d'autres fois, ils ont tellement peur d'être attachés. Peur de perdre leur spontanéité, leur liberté de mouvement, de ne plus pouvoir poursuivre leur passion. Je pense que ça, c'est une des choses qui leur fait le plus peur. Et pour certains, ils vont devenir nomades, puis ils vont repousser le plus loin possible les responsabilités, les engagements professionnels ou même amoureux. Ils peuvent avoir une peur de devenir alourdis par trop de responsabilités, et ça peut même les figer. Tu sais, si on prend trop d'engagement, puis ils se sentent coincés, c'est pas évident là, pour un bélier. Même devenir parent pour un bélier, hey, quelle aventure! Tu sais, si le bélier, il reste gamin avec son enfant et il voit la parentalité comme une aventure, super, ça va. Puis d'ailleurs, il va sûrement pousser son enfant à être le plus autonome possible, là, un peu comme lui ou comme lui-même il aimerait être. Et souvent, ça va être vraiment une grande école pour un bélier d'avoir des enfants, d'avoir à prendre soin des besoins d'un tout petit là, et de mettre leurs propres besoins de côté. Ça va être vraiment un apprentissage super important. On reconnaît un bélier à sa démarche rapide. C'est le premier à rentrer dans une pièce. C'est le premier à argumenter. Bien souvent, hein, c'est un de ses sports préférés. Il peut être loud aussi. Il peut gagner un argument juste en étant tellement enflammé. Mais c'est toujours très direct, très honnête. On sait où est-ce qu'on s'en va avec un bélier. C'est toujours clair. Et moi, ça, j'aime beaucoup ça, des béliers. Et les béliers, ils ont un certain charisme. C'est des charmeurs, là, nos béliers. ça vient de leur Mars qui est conquérant. Des fois, ils préfèrent la chasse que la prise. Alors, ça, c'est intéressant à savoir. C'est important de comprendre que quand le bélier est avec vous, il est avec vous à 100 %. Mais du moment que son attention est ailleurs, ben, il est 100 % ailleurs aussi. Alors, faut vraiment pas le prendre personnel. Là, c'est dans sa nature. Mais c'est ça, ça fait des amoureux fougueux, mais qui ont besoin d'espace, puis qui ont besoin de poursuivre beaucoup leur passion aussi. Alors, c'est pas toujours évident. Le bélier, lui, il gagne vraiment à vieillir. Là. Des fois, quand ils sont jeunes, ils sont tellement intenses, puis en vieillissant, ben, c'est ça, il se calme un peu et ça se prend bien. D'ailleurs, il ne veut pas faire comme les autres, il ne veut pas suivre la parade, il veut être en avant de la parade, ça c'est bien important, c'est l'archétype du pionnier, comme on disait. Il y a un désir aussi d'être original par ses idées, de se sortir de leur propre zone de confort, mais de pousser les autres, de les challenger aussi à sortir de leur zone de confort. Alors, si tu es une personne qui n'aime pas trop se faire brasser ou une personne qui n'aime pas trop sortir de sa zone de confort, c'est sûr que ça peut être confrontant. Parfois l'énergie d'un bélier. Mais c'est pas tous les béliers, évidemment, ça dépend toujours de la charte. Là. C'est pas tous les béliers qui sont comme ça, mais il y a comme quelque chose quand même dans leur nature. Contrairement à la balance, son signe opposé est complémentaire. Il met ses besoins et ses passions au premier plan sans même s'en rendre compte. Il est fait comme ça. Mais comme la balance, il va devoir trouver un équilibre. La balance, elle doit apprendre à prioriser et équilibrer ses besoins versus ceux des autres. Et le bélier, lui, il a à réaliser que les autres ont aussi des besoins et que leurs besoins sont aussi importants que les siens. La balance, elle a besoin de développer du bélier. Le bélier a besoin de développer de la balance. Les axes, hein, c'est important de comprendre vraiment ce jeu-là de polarité entre les signes opposés et complémentaires, bélier, balance, taureau, scorpion, etc. Et chaque axe a sa propre histoire à nous raconter. Alors, on peut l'avoir très, très bien ici, là, entre le bélier et la balance. C'est sûr que le bélier va se faire reprocher parfois d'être égoïste, d'être trop intense. Puis lui-même, là, dans sa quête d'arriver premier, il va devoir apprendre que ça sert à rien de courir, que le but, c'est pas juste d'arriver à la ligne d'arrivée, mais qu'il faut aussi maîtriser ses passions, aller un peu plus en profondeur. Puis ça, ben, ça prend la patience, puis la patience, c'est pas sa tasse de thé. Alors, comme je disais, ça, c'est des choses souvent chez le bélier qui ça va venir avec le temps, avec la maturité. Quand je disais pas de patience, si vous connaissez les béliers, vous savez que souvent, ils ont le pied pesant, surtout s'ils ont Mars en bélier. Ça aime la vitesse, ça peut même faire de la rage au volant dans des cas extrêmes. J'exagère, mais à peine. Ils sont aussi casse-cou. Alors, si vous avez des enfants béliers ou si vous étiez un bébé bélier, vous savez de quoi je parle. Donc, gouvernés par un Mars de feu, c'est sûr que leurs émotions, ils les vivent à 100 000 à l'heure. L'impulsivité, elle règne. La colère, l'impatience, ça peut faire partie de l'affaire, ça peut parfois exploser. On va voir beaucoup ça aussi chez les ascendants béliers. Faut pas trop s'en faire avec leurs grandes envolées ou tout ça parce que aussitôt dit, aussitôt oublié, bien souvent avec le bélier. Tu sais, mes petits béliers, là, quand vous vous sentez vraiment comme là, sur le bord d'exploser, mais comme aller courir, là. Aller faire du vélo stationnaire, aller dans un gym. Tu sais, vous n'êtes peut-être pas les meilleurs candidats pour la méditation, quoique ça vous ferait du bien, mais ultimement, il y a une énergie à brûler, là. Alors ça va être super important. Allons voir quelques béliers pour nous informer de leur tempérament. Un des premiers qui m'est venu en tête, parce que tu sais, c'est tellement Mars, justement, c'est Jackie Chan, l'acteur. Il est né le 7 avril 1954, un expert des arts martiaux. Il est connu pour son style de combat acrobatique. C'était un des seuls acteurs du genre à faire toutes ses cascades. Fait qu'imaginez, là, tu sais, manger des coups de pied à gauche, à droite, là, lui, il y en a eu en masse, là. Il y a quelque chose de particulier avec les arts martiaux parce qu'il y a toute une philosophie derrière ça, il y a une discipline de soi aussi, puis c'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup d'études aussi, souvent. Et c'est intéressant que lui, dans son cas, il a son Mars est en Sagittaire opposé à Jupiter en Gémeaux. Alors, c'est vraiment l'élève hein, qui a dû répéter et répéter encore. Puis il y a aussi toute, comme je disais, la philosophie qui est très Mars en Sagittaire qu'on retrouve dans les arts martiaux. Alors, je trouvais ça super intéressant. Puis là, Mercure en Poisson. Alors, tu sais, pas juste un combattant, là, il y a tout le côté acteur qu'on peut reconnaître chez Jackie Chan. On pense à des films comme Rush Hour qu'il a fait, ou c'est des genres de comédies, tout ça. Il a fait vraiment plein de films. Apparemment, il aurait fait 150 films dans sa vie, là, tu sais, de ses départs à Hong Kong jusqu'en Amérique, là. Il a fait vraiment énormément de trucs, là. On a aussi Pharrell Williams, né le 5 avril 73, chanteur très connu, producteur de plusieurs hits des dernières années, dont Happy! Il a collaboré et écrit plein de chansons pour plein d'artistes, dont Daft Punk et tout plein d'autres. C'est intéressant parce que justement, Mars qui gouverne son soleil est en Verseau, alors tout l'aspect collaborer, travailler avec d'autres, alors c'est une de ses forces, c'est clair. Mais là aussi, le soleil en conjonction avec Vénus, hein, on sait qu'il est très, très coquet. Il aime beaucoup les vêtements, s'habiller, tout ça, le design. Et c'est ça qui est intéressant. Justement, son soleil, conjonction Vénus, oppose Uranus en balance. Alors, on peut voir Uranus, la position d'être différent, le changement un peu dans le signe de la balance, encore là, très coquet. Alors, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Et en plus, imaginez-vous donc, il vient d'être nommé directeur artistique pour Louis Vuitton, la section hommes, vêtements pour hommes. Et c'est la première fois, Bélier, hein, pionnier, c'est la première fois qu'un artiste qui n'a pas de formation en direction artistique est nommé pour une grande maison de vêtements comme ça. Alors, il y a vraiment un effet très Bélier, pionnier dans le cas de Pharrell Williams. On a aussi Lil Nas X, qui est né le 9 avril 99, chanteur lui aussi, vraiment bold, très audacieux, pas peur de mélanger des styles autant musical que de son style visuel, tout ça. Il a pas peur de la controverse non plus, il a pas peur de brasser les choses, très, très bélier, comme je disais un peu des fois dans ta face. Et lui, c'est très fort parce que dans sa charte, il a le soleil en conjonction avec Jupiter. Alors, cette énergie-là de bélier, là, lui, il l'a comme foissant. Là. Alors, il y a vraiment cette énergie-là avec lui d'être vu d'une façon particulière. Et son Mars, à lui, se retrouve en scorpion. Et son Mars en scorpion, allez voir ses vidéoclips, là. Vous allez le voir à l'œuvre, son Mars en scorpion, en train de frencher le diable autour de danse, là, tu sais. Alors, ça, c'est très lui, puis on adore ça, puis c'est parfait. Lui aussi, il a Mercure en poisson comme Jackie Chan. Alors, il a tout l'effet justement à être un artiste, mais à sa façon particulière avec toute cette énergie-là de bélier. Alors, voilà pour nos béliers. Maintenant, regardons les transits importants de la saison du bélier. On savait déjà le mois dernier que le mois de mars était un mois super important parce que Saturne changeait de signe, quittait le Verseau après 2 ans et demi, finalement pour rejoindre le poisson. Alors, Saturne est en poisson depuis le 7 mars et on a une autre planète super importante qui change de signe au mois de mars et c'est Pluton qui entre en Verseau suite à l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Alors, on va regarder ça. Donc, le 20, le soleil va entrer en bélier. C'est l'équinoxe de printemps. C'est Ostara aussi, la célébration païenne. Le 21, le lendemain, nous avons une nouvelle lune en bélier, évidemment, à 0 degré 49 minutes. On n'est même pas à 1 degré. Tu peux-tu avoir plus nouveau départ, nouveau commencement? Il y a vraiment cette énergie-là cette année. C'est fou, fou, fou. On le voit vraiment, là. Il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer, une transition, je dirais. On n'est pas encore les deux pieds dedans, c'est clair, mais on est dans une transition très, 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 très importante. Comme je disais avec Saturne, qui est dans le dernier signe du zodiaque, il y a vraiment comme quelque chose de « wow, on ferme tellement des grosses étapes là, dans les années dans lesquelles on est ». La nouvelle lune en bélier à 0 degré 49 minutes, 13h23 heure de l'Est, le 21 mars. cette nouvelle lune-là est en conjonction avec Mercure qui est à 5 degrés. On a Chiron qui est quand même, par extension, qui est aussi en bélier, 14 degrés. On a Jupiter qui est encore en conjonction avec Chiron. Alors, on a une méga signature de bélier, de nouveaux commencements, de nouveaux cycles avec cette nouvelle lune-là. Comme je vous disais au début, c'est comme un début d'année, vraiment un réajustement, surtout pour nous dans l'hémisphère nord après l'hiver. Tu sais, quels sont les projets que vous voulez pousser de l'avant? Qu'est-ce que vous voulez voir germer? Alors, c'est vraiment un bon moment pour connecter avec cette énergie-là qui est en nous et qui nous rappelle que c'est important aussi de faire des choses pour nous, de reconnecter avec nos passions et de voir c'est quoi qui nous fait vibrer aussi, puis amener ça avec nous au cours de l'année, au cours du printemps, puis de l'été, puis de justement voir comment tout ça va grandir. Alors, c'est le temps d'avancer, d'y aller, d'être courageux. C'est important de faire preuve justement d'indépendance, de pensée, d'action, d'essayer des nouvelles choses aussi. C'est intéressant de voir aussi que Chiron est vraiment à mi-chemin là, dans le signe du bélier. Il y a la moitié de son chemin de fait. Il est rentré en bélier en 2018. Il nous parle beaucoup des blessures qu'on s'inflige à soi-même ou qu'on inflige aux autres, comment on peut être parfois constructif ou destructif dans notre environnement, avec notre monde, avec nous-mêmes même. Alors, il y a tout plein de réflexions en lien avec ça, tu sais. Mais clairement, reconnecter avec ses passions, ça va être super important. Même si Mars, qui gouverne cette pleine lune-là, qui va être en Gémeaux, qui sort de son 7 mois en Gémeaux depuis le mois d'août de l'année dernière, là, à cause de son rétrograde, il est resté là tellement longtemps, il s'apprête à rentrer en Cancer, mais il est dans les derniers degrés du Gémeaux et pour cette raison-là, il fait un carré quand même à la nouvelle lune en Bélier. Prenez votre temps avant de dire les choses. Ce serait mon conseil pour l'énergie de cette nouvelle lune-là. Bon nouveau départ, c'est vraiment une énergie très costaude là, dans le signe du bélier. Et 2 jours plus tard, ben, Pluton entre en Verseau. Alors là, les amis, soyez-vous un instant, là, fermez les lumières, là. On va rentrer dans le monde de Pluton. On va aller voir un peu c'est qui Pluton, là, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler tant que ça. La planète Pluton a été découverte en 1930 et Pluton incarne les principes suivants: transformation, intensité, pouvoir, puissance, profondeur, hein? PPP. Les forces inconscientes, c'est qu'est-ce qui fait peur? OK, Pluton, quelque part, il nous force à regarder des choses qui nous font peur. Il gouverne qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est sous terre, l'or, les minéraux. Il nous parle de qu'est-ce qui est invisible mais qui est puissant, les atomes, les neutrons, les électrons. Mais c'est aussi les secrets, c'est aussi la corruption, la putréfaction, c'est la décomposition qui mène au compost, c'est la décomposition qui mène au renouvellement, à la renaissance et à la fertilité. Alors là, on est vraiment au cœur des cycles de la vie et de la mort. C'est intense, Pluton, là. C'est pas... Donc, Pluton intensifie tout ce qu'il touche. Quand il rentre dans un signe, il va aller le transformer de façon très profonde. Mais le bon côté de Pluton, c'est que c'est pas comme Saturne qui passe 2 ans. Alors là, en 2 ans, rah, là, c'est, tout va se faire là. Non, non. Il va passer entre 13 ans et 30 ans dans un signe. Là. Ça vous donne une idée. Et là, puisqu'on entre en Verseau, ça va être 20 ans. Alors, on va avoir le temps de s'y faire. On va avoir le temps de s'habituer et de s'acclimater à tout ça. Donc, Pluton symbolise la désintégration et la régénération. Donc, c'est l'évolution qui passe par le rejet des impuretés, des énergies stagnantes. Il va mettre en lumière nos forces inconscientes et les forces inconscientes qui habitent toutes choses. C'est pour ça que Pluton, quand il rentre dans un signe, il nous met vraiment face à nos dysfonctions, il nous met face à nos démons, il nous met face à ce qui ne fonctionne pas. Puis évidemment, c'est jamais agréable de regarder ça. Et on l'a vu aussi dans les derniers 15 ans qui a passé en Capricorne, le signe des structures de ce monde, des banques, des gouvernements, de tout ce qui est les structures de nos sociétés. Quand il est rentré en Capricorne, on était en 2008, c'était le crash financier. C'est important de comprendre aussi que quand une planète, quelle qu'elle soit, rentre dans un signe, ou quand elle sort d'un signe, son symbolisme est vraiment augmenté. Et là, c'est intéressant de voir qu'on finit son cycle en Capricorne, puis qu'il n'est pas sorti encore du Capricorne, puis on en a pour un bout de temps là, avant qu'il sorte complètement. Ça va aller jusqu'en 2024 pour qu'il soit plus du tout en Capricorne. Alors là, on va revivre un peu la même affaire qu'au début. Et c'est ça, est-ce qu'on va rentrer en récession? Est-ce qu'on va avoir un effet un peu comme en 2008, mais ça va être différent parce que là, c'est de l'inflation, c'est autre chose. On est dans un autre contexte. On est dans un contexte aussi avec la guerre Ukraine-Russie, puis là, l'implication, puis comme la géopolitique est en train tout de se replacer, ce qui est très capricorne aussi, là. Et là, on est là-dedans. C'est sûr qu'à l'échelle mondiale, il faut s'attendre que les deux prochaines années, là, on sente qu'il y a comme une grosse transition, puis on ne sait pas trop vers où ça s'en va. Mais c'est ça, il y a comme quelque chose de structurel, de systémique, d'intérieur, que vraiment, tu sais, les fondations, là, ils se font brasser, là, c'est sûr et certain. Si on regarde l'archétype du Verseau pour comprendre un peu, plutôt en Verseau, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va venir transformer, le Verseau est gouverné par deux planètes, on le sait, Saturne, alors structure, tradition, les limites, et aussi Uranus, qui est sa planète moderne, la pulsion de changement, l'émancipation, l'innovation, la technologie. Alors là, c'est ça, là, il y a vraiment une passation entre deux mondes. Le Verseau est associé à la fois à l'individualisme et le collectif. Le Verseau, il cherche avant tout sa liberté et l'indépendance de pensée. Par conséquent, il questionne tout, les systèmes établis, l'autorité, que l'autorité vienne d'un parent, d'un employeur, d'un gouvernement. Le Verseau, il va analyser, c'est un signe d'air, il va analyser ça, comment on peut améliorer les systèmes. Le Verseau, c'est l'anticonformiste et malgré tout, il doit souvent se conformer au système en place et ça, c'est vraiment son plus grand combat. C'est comment vivre dans le collectif sans toutefois renoncer à sa propre individualité. C'est pour cette raison-là que le Verseau, c'est le défenseur des droits individuels, de la liberté, de la pensée universelle. Sa plus grande force, c'est certainement d'être capable de prendre du recul et voir le big picture. Ça, c'est super important parce qu'il a une grande capacité de synthèse. Il aime jouer avec les mots, les idées, les concepts. Ça fait de lui un redoutable débatteur, on le disait, signe d'air. Et oui, ça se peut qu'il soit un petit peu plus intellectuel qu'émotionnel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion pour autant, mais ça fait partie de son archétype, c'est sûr. Mais ce qu'il sait plus que tout, c'est qu'une seule personne ne peut pas porter le sort du monde sur ses épaules, puis que si nous voulons changer les choses, il faut y aller ensemble. Il est tout le contraire du lion, son signe opposé et complémentaire, qui cherche à s'élever au-dessus de la masse, à rayonner, à être le roi ou la reine, à vraiment être au-dessus, là. Alors, le Verseau, c'est nous tous. C'est nous tous. On est tous le Verseau. La collectivité, on représente le Verseau. Le Verseau, de tous les signes fixes, il a une certaine dualité du fait justement qu'il est gouverné par à la fois Saturne, les traditions, et Uranus, le changement. Sa mission, lui, vraiment, dans le Zodiac, c'est vraiment d'assurer le passage de la connaissance, autrement dit Uranus, et de la sagesse, Saturne. Hein, ça, c'est les meilleurs côtés un peu d'Uranus et de Saturne dans le monde de demain. Les yeux du Verseau sont fixés sur le monde de demain. Il ne regarde plus vers le passé. Et ça va être ça un peu la partie difficile de l'époque dans laquelle on entre, puis dans la grande accélération dans laquelle on embarque. Et c'est ça qui est un peu intense, si on peut dire, de la transition dans laquelle on est. On est déjà dedans, mais elle va s'accélérer. Vous savez, qu'est-ce qu'on a connu le monde d'avant l'Internet? On va garder des principes philosophiques, on va garder des principes scientifiques, on va garder des leçons historiques. Mais ultimement, il ne restera pas grand-chose de ce qui a été familier pour tous ceux qui sont nés avant. Et c'est pour ça que cette transition-là est tellement difficile et comment justement elle va s'accélérer et que là, wow, on va être obligé de se soucier de demain. Mais en même temps, il faut se soucier de demain parce que là, on a vraiment des problèmes. On a des graves problèmes sur la Terre collectivement, là. Que ce soit les changements climatiques, nos structures justement qui fonctionnent plus aussi bien parce qu'ils sont pas assez adaptés aux technologies, à l'innovation d'aujourd'hui, toutes ces choses-là. Alors c'est ça. On est vraiment dans ce passage-là. Puis c'est on peut dire que là, on est encore au début des années 2000, là, mais on rentre vraiment dans le nouveau millénaire. Là. C'est avec Pluton en Verseau, on rentre dans le nouveau millénaire. C'est aussi un changement d'ère astrologique. 2000 ans, un peu plus de l'ère du poisson, que vraiment, on peut débattre là, quand est-ce que ça commence ou pas. Personne ne le sait exactement. Mais c'est clair qu'on est en deux ères astrologiques et on commence une nouvelle étape de 2000 ans plus. Là. Alors, c'est des étapes historiques très importantes dans notre histoire collective. Et le Verseau, dans sa quête de changement, c'est important de savoir que lui, justement, il préfère les systèmes horizontaux aux systèmes verticaux. Les hiérarchies, les élites, très peu pour lui. Lui, il fait le lien entre le Capricorne, justement, le top du top, entre le monde matériel, le monde brut, si on peut dire, et le monde de l'intangible et de la conscience. Alors lui, il nous prépare à faire une fusion, justement, entre le monde matériel, le monde brut et le monde, justement, de la conscience. Il fait ce pont-là. Alors, c'est vraiment une étape super importante. Mais ça montre aussi comment, on le voit là avec l'intelligence artificielle, comment qu'on est en train de mettre notre propre conscience dans la matière, dans la machine, et comment la machine va se rapprocher de notre corps de plus en plus. Ça va être intéressant de voir comment tout ça va se manifester avec le temps. Je vous cite une astrologue britannique qui s'appelle Jessica Davidson qui écrit « Le Verseau représente le besoin de réforme et de croissance de la civilisation. Les structures de la société stagnent et déclinent s'ils ne sont pas modifiés par la vision, l'innovation et la révolution. Mais ce processus de transition n'est pas facile et peut conduire à des conséquences involontaires qui peuvent aussi mener à une désintégration et à du chaos. » Alors, faut pas oublier que le Verseau est aussi gouverné par Uranus et que, justement, des fois, on cherche à déstabiliser pour déstabiliser aussi. Des fois, c'est nécessaire, mais des fois, ça amène des conséquences fâcheuses. Mais comme je vous dis, le Verseau, c'est nous. Alors, c'est nous qui devons mettre de la pression sur les systèmes pour qu'ils changent. Ça va être important à un moment donné qu'on se regarde, qu'on se dise... Mais là, le problème, il vient d'où, là? Est-ce que c'est les structures, là, le problème, là? Puis c'est comment, justement, certaines élites qui sont très détachées du collectif font leur petit business en se foutant pas mal de toutes nous autres, là, puis qui, eux, essaient de nous faire croire que la problématique, c'est vraiment en nous puis qu'il faut qu'on se batte pour une miette de pain, là. Mais non, là, c'est bah, justement, il va falloir que ça redescende un peu, il va falloir trouver un nouvel équilibre là, pour restructurer, pour avoir des structures qui vont fonctionner mieux pour l'ensemble de la société, pas juste pour certains privilégiés. Alors, c'est sûr là, qu'il va y avoir des luttes de classe. On s'en va vers des luttes de classe là, et des luttes économiques, là, c'est certain, là. Et d'ailleurs, ben justement, si on rentre dans le côté sombre, puis parfois un peu le côté technologique épeurant du Verseau, c'est quoi? Je vais citer Rick Levine, un de mes mentors que j'aime beaucoup, qui évoque souvent les Borg quand il parle de Pluton en Verseau ou de l'ère du Verseau. Alors, qu'est-ce que les Borg? Les Borg ou le collectif Borg sont, dans l'univers de Star Trek, des créatures cybernétiques qui sont à la fois organiques et technologiques. Alors, comme je disais, la machine va se rapprocher de nous, là, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent, les Borg? Les Borg disent « Nous sommes Borg. Rendez-vous sans condition. Toute résistance sera futile. » Alors, c'est vraiment la pensée de groupe et la pensée unique. Ça, c'est le côté sombre du Verseau, puis il faudrait vraiment pas qu'on tombe là-dedans. Mais c'est sûr que c'est ça. Des fois, dans une révolution, on réfléchit plus, puis on fait juste embarquer, puis on y va. Alors, il va falloir faire attention justement à nos croyances. D'ailleurs, Saturne en poisson va nous faire revoir nos croyances. Ça va être tellement important qu'on développe notre propre sens de qu'est-ce qui est réel pour nous, puis qu'est-ce qui est notre connexion justement à plus grand que nous, et à écouter notre voix intérieure pour pas justement nous faire embarquer dans toutes sortes d'affaires. Va falloir garder notre jugement, va falloir garder notre discernement, bien choisir nos combats, pas se laisser simplement emporter par certains combats qui pourraient être plus destructeurs que bienfaiteurs, si on peut dire. Ça va être vraiment une fine ligne à marcher là, dans les prochaines années. Parce que les triomphes du Verseau, ils sont libérateurs, ils sont essentiels au progrès de la civilisation, mais c'est un signe qui est rigide, qui peut être détaché, il peut ne pas prendre en considération la sensibilité de chacun ou même leur capacité d'adaptation. Le Verseau, il peut imposer des systèmes de façon unilatérale. Si pour lui, c'est ça qui fait du sens, ben on installe ça comme ça. Puis dans sa fureur révolutionnaire, il peut vouloir imposer une pensée unique. Alors, ça va être à faire attention. Le révolutionnaire d'aujourd'hui, Uranus, peut devenir le dictateur de demain, Saturne. Le côté le plus élevé du Verseau, c'est vraiment la liberté, l'égalité, la fraternité, mais c'est comment qu'on arrive à ça. C'est comment qu'on va le faire. C'est ça la difficulté, tu sais. Et le Verseau, ben, il rejette assez facilement qu'est-ce qu'il considère comme irrationnel. Le côté désordonné de l'humanité, là, ça l'irrite, là. Et pour cette raison, le lion qui l'oppose nous rappelle de rester connectés à notre cœur, à notre créativité, à notre spontanéité. Donc, encore là, comme je vous disais, il faut toujours travailler les axes ensemble. Alors, il va y avoir une forte énergie en Verseau. Ça va être encore plus important de rester connecté à notre cœur, justement, à ne pas oublier qu'on n'est pas des robots et qu'on cohabite ensemble éventuellement, mais qu'on reste pleinement dans notre humanité. Le futur sera biologique et technologique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et à quel point les deux vont s'entrerelier, ça reste à voir. Au mieux, c'est une nouvelle étape dans notre évolution collective, un nouvel humanisme à l'ère de la technologie. Mais dans le pire des cas, c'est un monde technologique où on risque de perdre notre humanité au profit d'un environnement qui devient stérile et qui pourrait même être autoritaire par certains régimes ou certains gouvernements, là. Mais si ça allait bien, hein, pourquoi pas? Soyons optimistes un peu. Si on va voir la dernière fois que Pluton était en Verseau, on parle des années 1778-1789, OK? C'était vraiment une période de changements sociaux et de révolution. C'est une période qui est marquée par une révolte contre la royauté et l'aristocratie. On pense à Marie-Antoinette, chop chop. C'était une révolte contre la religion, le privilège de certains et de l'oppression politique. On s'intéressait à de nouvelles façons de penser. Il y avait des idées radicales qui émergeaient. Alors, on sait qu'on s'en va dans un temps un peu comme ça. C'est la raison, la science, la connaissance, c'est la fin de l'obscurantisme religieux. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, là, on est peut-être allé à l'extrême de ça, où est-ce que la science, justement, s'est coupée un peu de toute sensibilité et très froid. Alors là, peut-être, bon, est-ce qu'on va avoir un nouvel équilibre, peut-être, ou en tout cas un respect du spirituel et de la science. Mais quand même, pour l'époque, eux avaient vécu l'âge des ténèbres où est-ce qu'on brûlait des sorcières, là, fait qu'on s'entend-tu que le siècle des Lumières, là, ça a fait beaucoup de bien. C'est aussi la Révolution américaine, donc le début des États-Unis, leur déclaration de l'indépendance, et la Révolution française, comme on disait tout à l'heure, la fin de l'aristocratie, la déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. C'est aussi le début du féminisme. Alors, on voit qu'il y a vraiment des mouvements sociaux super importants, révolutionnaires. Alors, on a 20 ans justement de transition avec des thèmes comme ça, mais évidemment au goût du jour, pas au goût des années 1700. C'était aussi la révolution industrielle à l'époque. Alors, eux ont eu une révolution industrielle. Nous, on va avoir la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, à cette époque-là, en Angleterre, en France, toute l'activité économique a changé de nature en quelques décennies. On est passé d'une économie d'agriculture à une production de biens manufacturés comme à grande échelle, le monde qu'on connaît aujourd'hui. Les paysans sont devenus ouvriers. Ils récoltaient plus du blé dans les champs, mais ils allaient dans les mines chercher du charbon. Alors, c'est toute qu'une rupture qui s'est passée. C'est une révolution technique à l'époque, qui a été poussée justement par des inventions comme la machine à vapeur, la mécanisation, le charbon, le pétrole, les chemins de fer, tout ça. Là, on va vivre la même chose, mais ce ne sera pas ni technique ou industriel, ça va être la technologie qui va amener vraiment des changements en profondeur. Ça va être à tous les niveaux, de la façon qu'on bâtit des maisons, à la façon qu'on fait notre travail, que les tâches vont changer, tout ça. On espère que justement ça va amener de l'innovation qui va nous permettre de régler des problèmes aussi avec les changements climatiques, changements aussi de transition énergétique, où est-ce qu'on va prendre la nouvelle énergie. C'est sûr qu'au bout de Pluton en Verseau, on a des nouvelles formes d'énergie qui vont vraiment prendre leur place, là, c'est sûr. Je vois ça d'un côté positif. Déjà, on parle un peu de la fusion nucléaire et non pas la fission nucléaire, là. Ça c'est autre chose. Mais la fusion nucléaire sur laquelle on travaille depuis une centaine d'années maintenant, pas loin de 100 ans, là, mais peut-être qu'on va s'approcher d'être capable de faire quelque chose avec ça. Mais si c'est pas ça, ça peut être le solaire ou d'autres formes d'énergie, on verra bien, là. C'est sûr qu'il va y avoir de l'innovation qui va propulser tout ça vers l'avant, c'est certain. C'est intéressant d'ailleurs, En 1995, Uranus, qui gouverne aussi le Verseau, était à 0 degré du Verseau. Et là, ben, Pluton s'en vient sur ce point-là. Et à l'époque, ben, justement, c'était l'arrivée de l'Internet. Là. C'était la révolution de l'Internet. Alors là, on va voir la révolution, la transformation profonde d'un principe qui est déjà là. Fait qu'on, comme je vous dis, c'est comme s'il y a un monde avant et après. T'sais. Je pense qu'avec le temps, là, dans 200 ans, peut-être qu'on ça va être comme un marqueur dans le temps. T'sais, l'arrivée de l'Internet, un peu comme l'arrivée de l'écriture. Là, il va y avoir un avant et un après par rapport à ça. Il ne faut juste pas que l'Internet ou l'intelligence artificielle devienne le nouveau Dieu. Il ne faut pas que ça devienne le nouveau Dieu. C'était mon commentaire éditorial. Alors voilà, on aura en masse de temps pour parler de tout ça. Pluton, justement, est associé à des peurs. Fait que là, on va se faire beaucoup de peurs en lien avec qu'est-ce qui s'en vient, puis comment ça va se passer, puis oh my God, puis tu sais. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Pluton bouge tellement lentement. Tu sais, on va être capable de s'y faire, de s'adapter, ça va être graduel. Faut se rappeler aussi que nos ancêtres sont passés par là. Toutes les générations avant nous sont passées par là. Ils ont vu ça, eux aussi, des moments dans l'histoire où est-ce qu'il y avait des propulsions vers l'avant qui étaient très, très fortes. Alors, on va y aller une étape à la fois, puis on va y aller ensemble, surtout. On va y aller ensemble. Ah, une dernière chose que je veux dire aussi. Je vous parlais justement d'Uranus qui était passé à 0 degré du Verseau en 1995, qui est l'arrivée de Windows et tout ça dans nos vies, là. Mais justement, moi, je vois beaucoup plus le chiffre vraiment complet dans un peu l'ère du Verseau ou de Pluton en Verseau, ça va être vraiment du moment que Uranus va rentrer en Gémeaux. Ça va être en 2025. Et là, ça va être super intéressant. Et c'est pour cette raison-là que j'ai un peu quand même d'optimisme. Parce que Pluton en Verseau va faire un trigone à Uranus en Gémeaux. Là, c'est sûr que ça, à partir de 2025, ça va commencer à aller vite. Puis je pense qu'on va voir l'implantation vraiment de nouveaux systèmes, de différentes choses un peu partout. En tout cas, on verra bien. Puis de l'information, comment l'information est diffusée, tout ça. Mais je pense que l'innovation, si on parle en termes d'innovation, vraiment, il va y avoir comme une vitesse là, grand V qui va s'installer du moment qu'Uranus entre en Gémeaux. Quelle odyssée, hein, là, il faut revenir en 2023, puis à nos vies ici maintenant. Là, je viens de vous comprimer 20 ans en pas long. Alors, inquiétez-vous pas, ça. Calculez l'âge que vous allez avoir. Hein? Fait qu'on capote poule. Alors, on revient à notre mois de mars, imaginez-vous donc. Le 25 mars, Mars, la planète Mars, rentre en Cancer, finalement, finit toute son odyssée en Gémeaux. Mars, comme on disait, dans un signe d'eau, un petit peu plus immo, un petit peu plus justement à la défense, à la protection de comment qu'on se sent, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, ça va être vraiment un changement de paradigme de ce côté-là aussi. En avril, le 3, on va avoir Mercure qui est en taureau. Et ça, c'est important parce que on se prépare à un Mercure rétrograde en taureau. Le 6, nous allons avoir une pleine lune en balance à 6 degrés 07 minutes, minuit 34, heure de l'Est. Et cette pleine lune, on va avoir encore une belle signature en bélier, mais quand même un peu atténuée parce que, justement, Mercure et Vénus vont être en taureau. D'ailleurs, Vénus va gouverner cette pleine lune-là. Et la lune va être vraiment face à Jupiter. Je pense que ça va questionner pas mal nos besoins versus ceux des autres. On va avoir eu une nouvelle lune où est-ce qu'on on va avoir comme poussé des choses pour nous. On va avoir pris conscience, semé des graines, peu importe. Et là, ben là, c'est ça, ça va être de voir qu'est-ce que je suis capable de faire, à quelle vitesse je le fais, parce que Vénus va être en taureau. Alors, ça va être intéressant pour cette pleine lune-là de relâcher peut-être le faire et revenir dans l'être un peu puis trouver notre équilibre là-dedans. Alors, je pense que ça va nous parler de ça. Ensuite, le 11 avril, on a Vénus qui entre en Gémeaux. Alors, Vénus, tout d'un coup, qui va être « Wouhou, ça m'intéresse, ça m'intéresse. » On s'en va dans tous les sens. C'est comme « Waouh! » Et ensuite, on arrive au 20 avril, juste avant là, que le soleil entre en taureau. Et là, on va avoir une nouvelle lune, encore une fois, une nouvelle éclipse en bélier à 29 degrés 50. Alors, c'est vraiment annonciateur que les nœuds lunaires, justement, sont à veille, là, tranquillement, de passer sur l'axe bélier polyvalence, ça va changer à partir de cet été. Là, on était sur l'axe taureau-scorpion. Le nœud nord était en taureau, mais là, il s'apprête à passer en bélier. Alors là, justement, ça aussi, on pourra en reparler plus tard, mais ça va mettre vraiment un accent évolutif sur la place qu'on prend dans le monde, puis qui est-ce qu'on décide d'être dans le monde, puis qu'est-ce que je fais, puis comment j'organise mes trucs, puis tout ça. Ça va être intéressant. Alors, cette nouvelle lune-là, le 20, minuit 12, heure de l'Est, elle va être en conjonction large avec Jupiter. Écoutez, deux nouvelles lunes en bélier dans la même saison, toujours avec Jupiter en carré, encore là, hors signe, à Pluton qui vient juste de rentrer en Verseau. Alors, quel est le rôle que je veux jouer dans ce nouveau monde-là? Tu sais, cette tension-là, et peut-être faire attention à nos craintes, nos peurs, pas nous empêcher de continuer sur le chemin qu'on s'est donné, de continuer, ça va être super important. Mars qui gouverne cette nouvelle lune-là va être bien installée en Cancer, va être en aspect positif à Mercure et Uranus, justement. Alors, ça va être de vraiment prendre en compte qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit, pas se laisser trop débalancer et renouveler envers nous-mêmes un peu la mission qu'on s'est donnée, ne pas se laisser bouleverser par qu'est-ce qui pourrait se passer autour de nous. Ça va être super important. Et le 20, ben le soleil rentre en taureau, la saison du taureau qui va commencer, qui va être suivie juste le lendemain de Mercure qui commence son rétrograde en taureau. Mais ça, on verra ça dans un autre épisode. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais faire une saison du taureau parce que je prépare un voyage avec mon amoureux. On retourne en Italie pour nos 20 ans. Alors, on s'en va fêter nos 20 ans de vie ensemble là-bas. Donc, je vais voir, je vais faire mon possible. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de nos transits. Et prenons un moment justement pour parler d'Ostara, pour revenir à la nature, pour revenir à qu'est-ce qui est vrai, à la biologie. On est souvent tellement dans la technologie, comme on disait, on va l'être de plus en plus. Alors, revenons à la Terre maman. En parlant d'Ostara, le début du printemps, nuit et jour en parfait équilibre. La lumière qui commence à prendre le dessus sur la noirceur. Du côté de l'hémisphère nord, il y a des signes du printemps dans l'air. Le soleil brille plus fort, plus longtemps, l'air est plus chaud. L'hiver tire à sa fin et il est temps de se débarrasser de cette énergie lourde, lasse, de revenir à la vie. Nous nous sommes permis de ralentir, de nous reposer, de reporter à demain, mais voilà que nous sommes appelés à nous réveiller, à bouger, à mettre le nez dehors. Le printemps est une période de fertilité, de croissance, non seulement pour nous, mais aussi pour toute notre famille élargie de la nature, du règne animal et même des insectes. Le sabbat d'Ostara tire son nom de la déesse germanique anglo-saxonne Estrée. Elle est la personnification de l'énergie fertile de la saison qui éclate au contact des rayons du soleil et de la terre. Deux des symboles les plus importants de cette fête sont les lapins et les œufs. On pense à Pâques, c'est sûr. C'est en partie parce que les lapins peuvent se reproduire de façon quasi exponentielle, mais aussi parce que les lapins, les lièvres et les œufs sont liés au mythe d'Estrée. Les lièvres sont également sacrés pour de nombreuses déesses de la fertilité, dont Freya, Aphrodite, Moinette et bien d'autres. Alors, honorons ce temps nouveau en laissant le passé derrière, en invitant la fraîcheur dans notre vie, en laissant le soleil réveiller notre esprit, nous aider à être plus léger, à marcher plus doucement. Promenez-vous en nature et observez simplement le changement de saison. Plantez des graines pour un potager ou un jardin de fleurs. Faites un ménage de printemps dans votre maison. Décorez votre hôtel pour honorer Dieu et déesse de votre choix. Ajoutez des fleurs, des bougies jaunes, oranges, tout ce qui nous rappelle le printemps. Prenez le temps de méditer, de tenir un journal ou de réfléchir à vos objectifs d'ici la prochaine saison. C'est très, très, très en lien avec les nouvelles lunes et surtout les éclipses. Alors, pour ne pas se sentir trop éparpillé avec les éclipses, des fois, qui peuvent faire switcher les trucs d'un côté à l'autre. Alors, bon équinoxe à tout le monde. Bon retour du printemps. Alors, pour le mot de la fin, je voulais vous remercier de votre écoute. J'ai commencé le podcast Astral l'année dernière, en mars, justement à l'équinoxe. Et la formule a changé en cours de route. Au début, c'était un petit peu plus court et c'était vraiment... j'avais l'intention de faire ça la semaine et à un moment donné, tu réalises que Non, Mel. Tu fais trop de choses dans la vie, là, ascendant Gémeaux, calme-toi. Et c'est devenu un épisode par mois, là, qui est beaucoup plus faisable. Mais même à ça, des fois, la vie, c'est la vie. Comme je disais, même j'espère pouvoir faire le taureau parce que du moment que j'ai modifié ma façon de faire, j'ai commencé à faire chacune des saisons. Et c'est vraiment à partir de la saison du cancer que je suis allée plus en profondeur. Alors, j'aimerais ça finir taureau Gémeaux, dans le fond, pour vraiment que mon Zodiac soit complet au niveau du podcast, parce que c'est sûr qu'une fois que je vais avoir fait le tour de tous les signes, ben, on va changer la formule. Qu'est-ce que ça va devenir encore? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Si jamais vous avez des idées, s'il y a des choses que vous aimeriez me partager, des choses que vous aimeriez entendre, ben, vous me faites signe, ça me fera plaisir. Mais tout ça pour dire merci. Merci d'être là. Merci de m'encourager dans ma passion. Pour toutes les gens aussi qui sont venus me voir en consultation et qui m'ont donné leur confiance, c'est tellement pas quelque chose que je prends pour acquis et que je suis pas parfaite, je suis humaine, je fais vraiment du mieux que je peux, mais c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir me mettre au service des gens, que ce soit au travers de mes connaissances en astrologie ou mon intuition quand j'utilise le tarot ou un mélange de tout ça souvent. rien de ça n'existe sans vous qui êtes là, qui m'encouragez justement. Alors, un gros merci. On se retrouve très bientôt. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager. Ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.